Le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-30 ans. Cela représente plus de 10 000 morts par an, trois fois plus que les accidents de la route. Alors qu'un adolescent sur quatre se déclare être en situation de souffrance psychique, la majorité d'entre eux ne reçoivent aucune aide. Le dossier de la Tête au Carré est consacré cet après-midi au mal-être psychique des jeunes adultes, une période clé pendant laquelle le cerveau est en plein développement. Et avec mes invités, nous allons voir justement ce qui caractérise cette période de vulnérabilité, comment se construit le cerveau adolescent et comment il peut basculer dans la psychose, avec bien sûr des clés pour prévenir et aider ces jeunes adultes. J'attends de maintenant vos messages et vos questions sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr, et le mot-clé, la TAC. À la une de la science aujourd'hui, la polémique qui enfle autour de Toutankhamon. Axel Villard, bonjour.
Et oui Mathieu, bonjour. Il est quasiment certain maintenant que le tombeau de Toutankhamon abrite une chambre secrète, mais qui repose à l'intérieur. Les avis divergent, on fait le tour des prétendants dans un instant pour la une.
Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La fragilité psychique des jeunes adultes, le dossier donc dans quelques instants avec mes invités, les psychiatres Julie Bourgeoin et David Gourion. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. David Gourion, pourquoi l'adolescence est considérée comme une période critique pour le développement du cerveau ?
Pour deux types de raisons. Des raisons psychosociales, c'est une période cruciale pour l'insertion universitaire, les études, mais aussi le développement de la vie sociale, sentimentale. Donc, période vraiment d'hypermaturation psychosociale. Et puis, pour des raisons aussi neurobiologiques, qui sont liées au fait que c'est une période où le cerveau continue de se développer, contrairement à ce qu'on pensait assez tardivement, jusqu'à 25 voire 30 ans.
Donc pas seulement aux premières années de la vie. Hein.
Absolument, mais il y a aussi une phase de destruction neuronale pendant cette période, on en parlera sans doute tout à l'heure.
Julie Bourgeoin, quel est le premier signe, l'un des premiers en tout cas à surveiller chez un jeune adulte qui pourrait annoncer le début d'un trouble psychique?
Alors en fait, ce sont des symptômes type une humeur instable, difficulté à organiser ses idées et surtout ces symptômes ont un retentissement sur le quotidien du jeune, c'est-à-dire une baisse du rendement scolaire ou professionnel et souvent un isolement social avec un jeune qui se met de plus en plus en retrait de ses amis, de sa famille.
On va essayer de repérer ces troubles justement avec vous, on va se retrouver ensemble dans un instant avec les messages, les témoignages aussi des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur le site de l'émission. Mais qui se cache dans la tombe du pharaon Toutankhamon ? Eh bien, c'est à la une de la science aujourd'hui.
Dissimulée dans les reliefs désertiques du sud de l'Égypte, se trouve la vallée des rois, le cimetière sacré des pharaons, qui contenait jadis la plus grande collection de tombes et de trésors du monde. C'est là qu'en 1922, Howard Carter découvrit la tombe de l'enfant roi Toutankhamon. Mais une question demeure. Où furent ensevelis les autres membres de la famille royale ?
Et c'est toute la question qui agite l'égyptologie en ce moment, puisque le mois de novembre a été riche en découvertes et en hypothèses concernant la prétendue pièce secrète cachée dans la chambre funéraire de Toutankhamon. L'archéologue britannique Nicolas Reeves, qui dirige ses recherches, pense y trouver la tombe inviolée de la reine Néfertiti, épouse d'Akhenaton, mais les archéologues sont plus partagés que jamais sur la question. Bonjour Marc Gabold.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, spécialiste de la 18e dynastie, et pour vous, on va le voir, Néfertiti ne se cache pas dans la tombe de Toutankhamon. Qu'est-ce qu'on sait précisément de cette cavité secrète pour l'instant ?
Pour l'instant, ce qu'on a détecté, ce sont des irrégularités de la paroi, à partir de scanners de la paroi, des anomalies de température d'un dixième de degré sur cette même paroi, et des échos radars sur cette même paroi nord. Mais tout cela ne fait pas une tombe pour autant. Hein. Il peut y avoir des tas de choses, une pièce inachevée qui a été rebouchée par la suite, une tombe un petit peu plus loin qui ne serait pas connue, et ce serait une découverte extraordinaire, mais pas nécessairement une extension de la tombe de Toutankhamon qui aurait été masquée.
Qu'est-ce qui fait penser à Nicolas Reeves qu'il va y trouver la dépouille de Néfertiti ?
Alors, ce que l'on sait, c'est qu'entre le règne d'Akhenaton et celui de Toutankhamon, a régné une reine pharaon. Et sur l'identité de cette reine pharaon, en revanche, là, les spécialistes ne sont pas d'accord. Les anglo-saxons et Reeves parmi eux pensent que c'est Néfertiti. Les Français et plusieurs savants allemands pensent que c'est plutôt Méritaton, c'est-à-dire la fille aînée d'Akhenaton et de Néfertiti.
Est-ce que... Oui, allez-y, je vous écoute.
Voilà, et donc a priori, si effectivement cette reine dont on n'a pas, cette reine pharaon dont on n'a pas retrouvé la sépulture a été enterrée à proximité de la tombe de Toutankhamon, ce serait plutôt donc la, non pas Néfertiti, mais sa fille aînée que l'on pourrait retrouver. Sachant qu'on a probablement la momie Néfertiti.
Ouais. Comment on pourrait trancher sur cette question exactement, Marc Gabold?
Ah bah, déjà, il faudra essayer de voir si on a vraiment une pièce secrète ou une tombe à proximité. Donc ça, c'est probablement des sondages par l'extérieur, je suppose, parce qu'on ne va pas risquer d'abîmer les peintures en faisant un trou au milieu. Mm-hmm. Un moyen de faire descendre un endoscope et d'observer ce que l'on voit.
Vous l'avez déjà dit.
Ça arrive de prendre un petit peu de temps. Mm-hmm.
Vous l'avez déjà dit, on pense déjà avoir découvert la dépouille de Néfertiti?
Oui, il y a eu des annonces il y a quelques années déjà. Hein.
Voilà, en fait, il y a des études ADN qui ont été faites et qui ont montré dans un premier temps que Toutankhamon avait pour mère une dame que l'on appelle la Young Lady, la jeune dame, dont la momie a été retrouvée dans la tombe d'Amenhotep II. Et en reprenant ces études ADN, je suis parvenu à la conclusion qu'il s'agissait vraisemblablement de Néfertiti, en fait, qui avait épousé son cousin germain Akhenaton, et de cette union serait né Toutankhamon. Donc, à mon avis, la dépouille de Néfertiti, c'est cette Young Lady qui a été trouvée en 1899 par un Lyonnais, d'ailleurs, Victor Loret.
Mais l'ADN ne peut pas tout dire à 100% alors encore aujourd'hui ?
Ce qui complique les études ADN, c'est qu'on a des mariages entre cousins, et dans ce cas-là, par exemple, Toutankhamon serait le fruit de deux générations de mariages entre cousins. Alors tout ça,
c'est un peu compliqué,
perturbe beaucoup l'étude ADN.
Si on suit les théories de Nicolas Rives, qu'est-ce qui aurait poussé les gens à cacher la tombe de Néfertiti aussi bien ?
Alors, ce qui est certain, c'est que le mobilier funéraire de Toutankhamon est usurpé, on peut dire maintenant, à 80% de cette reine pharaon que lui identifie à Néfertiti et moi plutôt à Méritaton, et dont on n'a effectivement jamais retrouvé la sépulture. Donc, il n'est pas absurde de penser que Toutankhamon l'a enterré un petit peu à la va-vite, quelque part dans la vallée des rois, pourquoi pas à proximité de sa future tombe, et donc qu'elle reste à découvrir. Enfin, c'est une possibilité parmi des tas d'autres. Sa dépouille a pu être déjà trouvée, pillée et éparpillée.
Donc maintenant, il va falloir explorer cette cavité hein, pour trouver la réponse. C'est ce que vous nous décriviez, Marc Gabold. Ça pourrait se faire assez rapidement ou pas? Parce qu'on sent qu'il y a une espèce d'effervescence autour de ces questions qui passionnent tout le monde. Mais il y a les moyens derrière, réellement, pour arriver à des bonnes conclusions?
Oui, au point de vue technique, faire un trou sur plusieurs mètres, d'un centimètre ou un centimètre et demi d'épaisseur pour mettre un endoscope, ça ne pose aucune difficulté. Bon, il faut savoir exactement où le faire pour ne pas risquer d'abîmer ce qui se trouve en dessous, mais c'est quelque chose techniquement tout à fait possible. Et je pense d'ailleurs que ça va se terminer comme cela avec un essai de visualisation à l'aide d'un endoscope.
Vous parliez de l'usurpateur Toutankhamon. Même son masque d'or, la pièce la plus connue de l'archéologie antique, est peut-être une usurpation?
Et même certainement une usurpation. Nicolas Ruiz a pu l'observer de près au musée du Caire puisqu'il est en cours de restauration. Et effectivement, sous le nom de Toutankhamon, on aperçoit les traces d'un nom plus ancien. Et en travaillant d'ailleurs avec Ray Johnson de Chicago House à Luxor et avec moi-même, nous sommes parvenus à reconstituer le cartouche original et c'est bien celui de la reine pharaon. Donc on peut dire que 80% du mobilier funéraire Toutankhamon en fait appartient à une reine pharaon qui a régné 3 années avant lui.
Bien, ben, l'égyptologie reste quand même toujours un monde de mystère, Marc Gabold. On peut citer votre livre hein, Toutankhamon, tout simplement, qui est sorti en septembre aux éditions Pygmalion. Et merci à vous pour votre éclairage, pour cette actualité égyptienne. Merci Marc Gabold.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
Au revoir.
Dans les coulisses de la COP21, avec reporter.net.
Et pendant toute cette COP, eh bien, nous retrouvons Émilie Maspin au téléphone avec nous. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Journaliste pour le site reporter.net, notre partenaire climat. Aujourd'hui, une annonce importante au Bourget?
Oui, effectivement, c'est l'ONG 350.org qui l'a faite. Elle a fait le compte de toutes les institutions qui s'étaient lancées dans le désinvestissement des énergies fossiles. Et aujourd'hui, elles sont plus de 500, record battu. Ça représente quand même 3 000 milliards de dollars, même plus que ça.
Le désinvestissement, qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, le principe du désinvestissement est simple. C'est que si on veut lutter contre le changement climatique, il faut absolument réduire donc notre consommation d'énergie fossile, le pétrole, le gaz et le charbon, et que on n'y arrivera pas si on ne renonce pas à un certain nombre de projets et d'investissements pour la construction de centrales thermiques au charbon, par exemple. Et c'est pour ça que l'ONG 350.org, ils étaient une dizaine de militants ce midi dans les halls du Bourget, où en fait ils ont brandi une banderole en appelant les passants à laisser les combustibles fossiles dans le sol, et ils ont secoué un énorme ballon argenté qui représentait la bulle carbone.
Voilà donc ce qui se passe au Bourget aujourd'hui. D'autres petites infos, Emilia, à retenir?
Oui, effectivement, on a eu un éclairage intéressant, toujours sur les investissements de Pascal Canfin, du World Resources Institute, qui nous dit que ce mouvement était d'abord limité aux fondations philanthropiques et aux ONG, et que là, c'est très très intéressant, parce qu'il s'élargit à des acteurs beaucoup plus conventionnels. Et surtout, ces acteurs du monde économique trouvent un vrai intérêt économique à le faire, puisque les cours du charbon s'effondrent, et même le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre a reconnu fin septembre que les actifs carbonés étaient de plus en plus risqués. Donc c'est plutôt intéressant, parce qu'une nouvelle étude du Climate Action Tracker publiée hier montre que la construction de nouvelles centrales à charbon est complètement incompatible avec une trajectoire de réchauffement de 2 degrés.
Et bien voilà pour les infos principales, en tout cas de ce 2 décembre en direct de la COP21. Merci Émilie Maspin, et puis on vous retrouvera bien sûr demain avec toute l'équipe de Reporters.net. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des centaines de gigantesques empreintes de dinosaures découvertes sur l'île de Skye en Écosse par des scientifiques britanniques. D'un diamètre moyen de 70 cm, elles remonteraient au Jurassique moyen il y a 170 millions d'années. Leur enchaînement en zigzag est caractéristique des sauropodes primitifs, de gros herbivores de 10 tonnes et de 15 mètres de long. Elle prouve également que ces animaux n'avaient pas peur de faire trempette pour aller chercher de la végétation aquatique. La fourmi Odontomachus rixosus, plus connue sous le nom de piège à mâchoire, c'est plus facile à dire, n'en finit pas de surprendre par ses capacités acrobatiques. Les scientifiques connaissaient déjà sa capacité à bondir en arrière en utilisant ses mandibules comme propulseur pour échapper à une menace, sans aucun contrôle sur son point d'arrivée. Eh bien, cette fourmi serait également capable de sauter vers l'avant avec beaucoup plus de maîtrise par la force de ses pattes. Deux aptitudes exceptionnelles qu'elle partage avec aucune autre fourmi. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant découvrir ce comportement inédit en vidéo sur le Facebook et le Twitter de La Tête au Carré. Allez, notre dossier dans un instant sur la fragilité psychique des jeunes adultes. Et c'est Yanis, à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Un jeune adulte sur quatre en situation de mal-être psychique, avec pour certains de véritables symptômes psychiatriques. Comment repérer les premiers signes, accompagner les 15-30 ans au cœur de ces difficultés? Dossier donc avec mes invités, Julie Bourgin. Vous êtes psychiatre au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris et vous êtes responsable du centre d'évaluation pour les jeunes adultes et les adolescents. Et cette année, vous avez participé à un ouvrage collectif qui s'appelle « Signes précoces de schizophrénie » chez Duno. Et puis David Gourion, vous êtes médecin psychiatre. Vous publiez de votre côté chez Odile Jacob « La fragilité psychique des jeunes adultes ». Déjà des messages, des témoignages des auditeurs sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. David Gourion, lorsqu'on lit votre ouvrage, on découvre que ces troubles psychiques chez les jeunes sont loin d'être un phénomène marginal, mais ça reste encore une souffrance invisible.
C'est un peu, en effet, si vous voulez, ce livre, j'ai commencé à l'écrire au mois d'août 2014, lisant Le Monde, disant: c'est extraordinaire, le taux de mort sur les routes est passé en dessous de 4000. Ce que j'ai trouvé génial, et en même temps j'ai été un peu triste, parce que je me suis dit, on a fait des efforts considérables, on a mis des moyens, ce qui est extraordinaire, c'est une très très bonne nouvelle. Et de l'autre côté, sur une autre cause de mortalité qui est le suicide, entre les années 70 et maintenant, on a continué d'augmenter un petit peu. Donc je me suis dit, il faut qu'on en parle, il y a un vrai message, ce sont des souffrances invisibles, ce sont des morts évitables, il faut le dire, il y a des pays qui ont réduit ça. Et puis, il n'y a pas des morts plus nobles que d'autres, hein, mourir par suicide ou mourir par sur les routes. Donc c'était aussi, il y avait une dimension un peu militante dans cet ouvrage.
Et le nombre de morts par suicide chez les 15-30 ans, c'est deux fois plus justement que les morts sur la route. Hein.
Alors, 11 000 suicides, c'est le chiffre global sur l'ensemble de la population. Au même titre que 4 000 morts sur les routes, c'est l'ensemble global.
Et alors pour les jeunes,
sur la période 15, sur la période jusque chez les 30 ans, c'est à peu près un tiers de ces suicides, parce qu'on se suicide aussi beaucoup, beaucoup chez les personnes âgées, dans les situations de solitude, de veuvage, etc. Ouais.
D'où l'importance, Julie Bourgin, de repérer les premiers signes. C'est absolument essentiel, justement, pour bien diagnostiquer, et le plus tôt possible, ces troubles psychiques.
Effectivement, à l'heure actuelle, on sait, et on peut faire des choses pour éviter, justement, que le sujet jeune rentre dans une aggravation de ses troubles, avec un retentissement plus important sur son quotidien. Et l'idée qu'on avait jusque-là, qui était que si trouble psychique il y a, eh bien ma foi, on peut pas y faire grand-chose, l'évolution se fera toute seule, eh bien on en est revenu. Et on sait maintenant qu'on sait faire des interventions précoces qui permettent de ralentir, voire de prévenir l'évolution vers une maladie plus invalidante psychiatrique.
Ouais. Il y a des pays qui sont des exemples en la matière, justement, David Gourion.
Il y a des pays qui se sont en effet distingués, en particulier le Canada, en particulier l'Australie, qui ont mis très tôt en place, il y a déjà une vingtaine d'années, des programmes de dépistage précoce et surtout d'intervention. Le message qu'on vient porter, c'est quand même un message d'espoir. C'est l'idée de dire, il ne s'agit pas de dramatiser la maladie psychique, de dire, oh là, attention s'il y a la moindre chose.
Ouais.
C'est de dire, si on prend les choses extrêmement tôt, on peut complètement influencer la trajectoire et ne pas passer d'une vulnérabilité à une maladie.
Oui, alors on va prendre bien sûr le cas extrême du suicide au travers de ce témoignage de Patricia. Nous venons de perdre l'ami de nos enfants par suicide, dit-elle. Comment peut-on se suicider à 15 ans? On n'a rien vécu, comme le faisait remarquer une de mes filles. C'est difficile, ça a été une ado pourtant entourée, aimée, appréciée. Que se passe-t-il dans la tête d'un ado qui reste fragile? Il faut absolument les protéger, dit Patricia. Qui veut répondre, Julie Bourgin?
Alors, en effet, le fait d'être aimé, choyé, investi et d'avoir une jolie vie pour l'extérieur est une forme de facteur de protection du suicide, mais ça suffit pas, parce que effectivement, on peut avoir tous ces facteurs de protection et malheureusement avoir également une vulnérabilité, un trouble psychique qui fait qu'à un moment donné, ce jeune non pris en charge par des médecins psychiatres spécialisés peut passer à l'acte sans forcément qu'on voit justement à quel moment, enfin que la famille puisse voir à quel moment ça va arriver. C'est toujours très douloureux pour la famille autour, c'est toujours un drame. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement avoir accès, déstigmatiser l'accès aux soins. Et quand on dit l'accès aux soins, c'est vraiment vers le médecin spécialiste, ouais, psychiatre.
Et pourquoi ? Parce que ça reste un tabou au fond dans notre pays ?
Ça reste un tabou. Ouais. Juste pour compléter ce que disait le docteur Bourgin, il faut absolument lire, si ça n'a pas été fait, les souffrances du jeune Werther, qui décrit absolument ça. Goethe décrit très très finement. Et en effet, souvent les personnes qui sont en grande souffrance psychique, les jeunes, les adolescents, se culpabilise encore plus d'avoir une famille aimante, gentille, etc. Il n'y a rien de pire finalement que de souffrir sans comprendre pourquoi. Mmh. Donc il n'y a pas nécessairement de raison. On a du mal à le comprendre, mais il n'y a pas nécessairement de raison objective pour la maladie psychique.
Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau justement du jeune adulte, David Gourion ? On parlait de cette période critique là tout à l'heure avec vous. Comment, d'un point de vue anatomique, biologique vraiment, ça se passe ?
Alors dans mon livre, je reprends la métaphore d'un jardin.
Oui.
En disant, si vous voulez arriver au jardin de Versailles, il va falloir faire pas mal de choses.
Donc, on part d'un terrain en friche d'abord. Hein.
On part d'un terrain vierge. Mmh. Il faut d'abord faire un plan. Le plan d'ensemble.
Pourtant pas très grand jardinier dans l'âme.
Non, je suis un très mauvais jardinier d'ailleurs. Il faudrait pas me laisser refaire Versailles, ce serait autre chose. La première étape, c'est faire un plan. On va savoir où on veut planter la forme d'ensemble. Et ça, c'est un peu la carte génétique. C'est pas un prédéterminisme absolu, mais c'est quand même une carte globale qui... Voilà, et on va planter. Et puis ces jeunes pousses vont grandir, sont les neurones qui vont se développer de façon assez touffue et un peu brouillon en départ. Il y a énormément de jeunes pousses, ça pousse dans tous les sens. Au moment de l'adolescence et jusqu'à la période de 25 ans, on va perdre en réalité des neurones. À 25 ans, c'est le moment où on a les plus hautes performances intellectuelles.
25 ans.
À 25 ans, on est au top. Hein. Alors, je dis pas qu'à 30 ans ou 35 ans, c'est
ça,
foutu pour vous.
C'est un petit peu désolant
mais,
quand même.
Mais sur le plan des performances cognitives pures, c'est là qu'on est le plus élevé. Et c'est la période en même temps la plus fragile parce qu'il y a à la fois un affinage des réseaux de neurones, un élagage, mais en même temps une destruction. Si vous voulez que votre jardin soit taillé et parfait, il va bien falloir couper. Il va falloir tailler et il y a une destruction de neurones. Si cette destruction est trop forte, si moi j'arrive dans le jardin de Versailles, je suis un très mauvais jardinier, qu'avec ma tronçonneuse je décapite de nombreux arbustes, je vais probablement avoir un impact cérébral qui fait que je vais développer, si je reprends cette métaphore vis-à-vis du neurone, des maladies psychiques. Et alors le mauvais jardinier, ce sont tous les facteurs environnementaux ou psychosociaux de stress qui vont venir impacter le cerveau pendant cette période. On en reparlera, cannabis, stress sociaux, etc.
Alors, parmi justement ces facteurs, le cannabis, écoutons un extrait de Zone Interdite diffusé en 2013.
Aujourd'hui, pour eux, pas un jour sans cannabis. Ils ont même du mal à trouver un intérêt à une activité sans joint.
Personnellement, moi, c'est tout mon entourage. Après, j'ai trois amis maximum qui fument pas. J'ai un ami qui fume pas il y a pas longtemps. Je lui racontais une après-midi qu'il avait passé avec une amie à lui. Et voilà, il me parlait de jeux de cartes, de... des petits délires qu'on faisait encore à l'époque ensemble quand on était au collège, et des trucs qui sont encore sympas, même à 20 ans, 25 ans, toujours des petits délires entre nous. Et c'est vrai que bah, quand on se voit, nous, comme on propose de se voir pour fumer un pet, bah, on va parler un peu, on va rouler le pet, bah, finalement on va regarder des vidéos à la con sur internet, on va écouter de la musique.
C'est devenu banal d'appeler son pote et de lui dire genre ouais machin, on se rejoint à tel moment pour fumer un pet. Avant on voyait nos potes dans l'après-midi, comme ça on s'appelait, on les voyait tout le temps et tout. Mais c'était pour faire autre chose, alors que maintenant, il y a un petit problème avec ça.
Alors, un petit problème, un gros problème même apparemment, Julie Bourgin, parce que la réalité du cannabis, vous la voyez au quotidien au sein de votre consultation.
Oui, en effet, beaucoup de jeunes fument du cannabis, c'est vrai, tous ne vont pas tomber dans la maladie psychiatrique, ça c'est vrai aussi. Malheureusement, on ne sait pas à l'avance, quand on va commencer à augmenter sa consommation de cannabis, qu'on est vulnérable ou pas à une maladie psychiatrique. Donc c'est vrai que là, il y a une inégalité et que...
Certains vont très bien s'en sortir.
Voilà, certains vont fumer beaucoup et vont réussir effectivement à avoir une détérioration de leur fonctionnement et à réussir à s'accrocher. Et puis souvent, quand même, ceux-là finissent par diminuer leur consommation. Mmh. Et en plus, ce sont souvent les plus vulnérables à la maladie psychiatrique qui se mettent à fumer d'autant plus, puisque le cannabis vient en plus généralement combler un manque de motivation, à des vertus anxiolytiques pour diminuer l'angoisse, etc. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène un petit peu de cercle vicieux,
ouais,
où le cannabis vient des fois clairement comme thérapeutique de toutes ces angoisses. Et donc, et malheureusement, engage le patient dans la maladie.
Oui, il y a ce cercle vicieux-là, mais ce qu'il faut dire aussi, pour être très très concret avec les jeunes auditeurs ou leurs parents, c'est il y a deux, trois conseils. Comme l'a dit le docteur Bourgin, il y a consommation et consommation. Ne commencez pas avant l'âge de 15 ans. Idéalement, enfin, je suis pas en train d'y recommencer, hein,
ouais,
mais si vous décidez de consommer du cannabis, plus votre consommation va être précoce, plus vous aurez un impact sur votre cerveau. Donc idéalement, alors je vais pas dire qu'après 25 ans on risque rien sur le plan psychiatrique,
après ce pic,
mais quand même, si vous fumez du cannabis pour la première fois après 25 ans, vous avez peu de chance. Deuxième chose, ne consommez pas de cannabis si vous avez des antécédents familiaux de schizophrénie, de troubles de l'humeur, de troubles psychiatriques, parce que vous êtes plus à risque du fait de vos gènes.
Mmh.
Et troisièmement, surtout ne tombez pas dans une consommation quotidienne ou pluri-hebdomadaire. C'est pas la même chose de fumer un joint une fois par mois avec des amis que de fumer toute la journée, tout seul, enfermé chez soi.
La qualité même du cannabis aujourd'hui aussi a peut-être accentué ses effets, non, sur le cerveau.
En l'espace de 10 ou 15 ans, les concentrations en principe actif, le THC, tétrahydrocannabidol, ont été multipliées de 3 à 10. Il y a aujourd'hui des variétés de super cannabis, hein, on appelle ça la skunk, qui sont les plus psychotisantes. Donc c'est ça aussi qui a changé en l'espace de 20 ans.
Là, on a affaire des bombes à retardement quand même, hein.
Ah oui, clairement, on multiplie par 2 ou 3 le risque de transition psychotique avec les consommations de cannabis tel qu'il est actuellement. Hein. C'est...
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier avec les messages sur le site de l'émission.
Portons des vivres au bonheur, car lui est ta femme.
les innocents.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
La fragilité psychique des jeunes adultes, David Gorion, vous proposez ce livre aux éditions Odile Jacob, et puis également avec nous Julie Bourgin, vous êtes tous les deux psychiatres. Les questions de nos auditeurs, avec beaucoup de témoignages sur le site de l'émission, qu'est-ce qui pourrait expliquer, David Gorion, d'abord la recrudescence de ces troubles chez les jeunes? Il n'y a pas que le cannabis, hein, on l'évoquait tout à l'heure, il y a énormément de facteurs.
Au niveau individuel, de facteurs psychosociaux, on l'a dit tout à l'heure, c'est une période cruciale, mais... On peut évoquer aussi ce que j'appelle le choc de la modernité, c'est-à-dire que notre environnement de vie, nos conditions de vie, ont changé de façon considérable en quelques décennies. Mmh. Et notre cerveau, lui, a peu évolué finalement. Hein, l'homme du Pléistocène, l'évolution, la phylogénétique évolue beaucoup, beaucoup moins vite que notre environnement. Mmh. Et le cerveau ne s'est pas configuré dans un environnement qui a complètement changé. On travaille dans des bureaux, donc la sédentarité, alors qu'on sait que l'exercice physique a des vertus protectrices, le fait d'être beaucoup moins exposé à la lumière puisqu'on est dans des bureaux, le fait d'avoir des désynchronisations des rythmes veille-sommeil, on dort moins longtemps qu'il y a 20 ans, et les jeunes ont perdu en moyenne une heure de sommeil par nuit. On a dit la précocité de la consommation de cannabis, du binge drinking, donc une multitude de facteurs qui viennent s'intriquer aussi avec les facteurs génétiques.
Julie Bourgin, le stress psychologique aussi, très important, hein,
oui,
dans ces facteurs.
Oui, bien sûr. Le modèle de vulnérabilité au stress suggère en effet que le stress est un des principaux déclencheurs, quand on dit stress et psychosocial, hein, de facteurs de risque qui contribuent au déclenchement de la psychose. Et dans ce modèle, en fait, ne pas savoir faire face à certains stresseurs, finalement, du quotidien, liés aux interactions sociales, liés aux examens, etc., est fondamental au développement et à l'évolution de la maladie. Et du coup, le fait qu'on ait pu mettre en évidence ce rôle important du stress a permis aussi de mettre en place des interventions précoces que l'on fait dans notre centre d'évaluation de jeunes adultes adolescents, dirigé par le professeur Krebs, dans le service du professeur Krebs et du professeur Gaillard, au SHU à Sainte-Anne. Et l'idée, justement, c'est de développer un programme d'intervention précoce centré, en particulier, sur la protection des effets néfastes du stress.
David Gorion.
On peut prendre la métaphore de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si, au fond du vase, vous avez des éléments qui peuvent être les facteurs génétiques, l'histoire d'enfance. Et puis, vous allez accumuler au cours de cette période de transition des facteurs supplémentaires. Le docteur Bourgin vient de le dire, des facteurs de stress, du cannabis, etc. Mais là encore, je voudrais qu'on rassure aussi les gens, parce qu'on parle de choses inquiétantes, on parle de schizophrénie. Il y a un point très important, c'est qu'on peut enlever des gouttes d'eau aussi du vase, et qu'il existe des facteurs protecteurs, des facteurs de résilience, et que c'est justement ça aujourd'hui qu'on essaye de promouvoir dans ce qu'on est en train de dire, dans ce qu'on est en train de découvrir, que les neurosciences ouvrent des pistes d'espoir absolument considérables. Donc je voudrais que les gens, les auditeurs, entendent aussi que ces interventions, ça n'est pas que du dépistage. Ce sont aussi des interventions de prévention qui peuvent vraiment tout changer.
Allez, des messages, celui de Raoul. Comment est-ce que vous avez fixé la fourchette de la jeunesse à 15-30 ans, demande-t-il. Des personnes plus âgées, en galère, obligées de redevenir dépendantes de leurs parents, ne sont-elles pas infantilisées?
Oui, alors je pense qu'on peut rester jeune jusqu'à 77 ans, évidemment, mais... Si vous voulez, j'ai pris cette tranche d'âge d'abord parce qu'elle est rarement traitée. Il y a énormément de livres sur l'adolescent, peu chez le jeune adulte. Et que deuxièmement, c'est dans cette tranche d'âge précise que débutent 80% des troubles psychiques. Je dis bien 80%. Alors, c'est pas moi qui invente la tranche d'âge 15, 25, 30. Hein. Ce sont des données scientifiques.
Un courriel de Daniel, c'est un témoignage. Mon fils de 19 ans est aujourd'hui déscolarisé, fumeur régulier de cannabis, très grand consommateur de jeux en ligne. Nous venons de le rapatrier à la maison après la découverte brutale de sa rupture scolaire et sociale. Il a accepté de se faire aider et commence une thérapie. Comment trouver une aide pour les parents totalement désorientés et paumés que nous sommes, demande Daniel.
Alors effectivement, c'est une question pertinente. Les parents sont souvent en première ligne dans ces situations. On sait que c'est les interlocuteurs privilégiés. Et donc il existe des programmes, dont le programme Pro Famille, qui est un programme qui est développé à l'échelle nationale. Il y a un groupe qui est organisé à l'hôpital Sainte-Anne, coordonné par Madame Dominique Villard. Et il y a de plus en plus de groupes type Pro Famille pour aider ces parents en difficulté. Et puis, il y a également effectivement les associations telles que l'UNAFAM, l'Union nationale des familles, qui peuvent répondre à certaines questions De plus, on reçoit les familles aussi en entretien. Mmh. C'est important de dire ça, c'est-à-dire que dorénavant, quand un jeune vient en consultation dans notre unité d'évaluation, il est évident que les parents sont également les bienvenus.
David Gourion.
Il faut qu'on travaille en effet plus avec les familles qui sont absolument essentielles, qui sont en souffrance. Et ce que les études montrent, c'est que l'un des facteurs pronostiques numéro un pour la bonne évolution de ces jeunes,
c'est
la qualité
parents,
du support familial. Mmh. C'est un facteur de résilience majeur. Mmh.
Autour de la schizophrénie, vous en parliez tout à l'heure, un reportage pour en discuter. Ça se passe à Sherbrooke, au Québec.
24 ans et déjà un lourd passé. Simon est atteint de schizophrénie, une maladie qui présente des défauts de fonctionnement neurologique du cerveau. Il fait partie du 1% de la population mondiale qui en souffre.
Je dirais qu'à partir du secondaire, j'ai commencé à avoir une tendance à être très philosophe. OK? Puis je me trouvais chanceux ou simplement philosophe parce que j'avais toutes sortes d'idées spéciales. J'étais spécial, mais j'étais pas considéré comme fou. Ça s'est installé, la maladie chez moi, sous forme d'une dépression, comme une dépression progressive et de plus en plus lourde à supporter. Mais quand tu délires, tu crois fermement à ton délire, tu es totalement absorbé par le délire. Et puis, il n'y a personne d'autre qui va être capable de te convaincre du contraire.
Voilà un témoignage sur la schizophrénie, Julie Bourgin. C'est plus de 600 000 cas en France, 1% de la population mondiale, ce qui est très important.
C'est énorme. En effet, c'est effectivement 635 000 cas en France. Donc, on imagine les coûts associés directs et indirects. C'est-à-dire qu'on est sur à peu près 15 milliards d'euros de dépensés en France chaque année pour cette maladie. Ce qui prouve bien toute la pertinence de programmes d'intervention précoce, où là, on sait aujourd'hui que pour 1 euro investi pour la prévention, on fait épargner 15. C'est un rapport de la London School of Economics qui, en 2014, rapporte ces chiffres et qui donc démontre le fait que pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore plus mis en place de programmes d'intervention précoce à l'échelle plus élargie que simplement notre centre d'évaluation.
Alors, David Gourion, au-delà des chiffres, il y a aussi la réalité des malades. Hein. On l'entendait dans ce témoignage, avec un des premiers symptômes qui est la dépression.
Oui. Alors, de façon un peu plus large, parce qu'on a beaucoup parlé de schizophrénie, et c'est en effet une des pathologies les plus préoccupantes, mais 1% c'est énorme, et quand on prend la proportion de jeunes qui souffrent d'au moins un trouble psychique, on monte à 25%. Si vous cumulez dépression, troubles anxieux, ouais, addiction à l'alcool,
c'est
etc.
C'est ce qu'on disait 1 sur 4.
Hein. Ce qui est absolument considérable, et il faut mettre en parallèle le fait que 1% des fonds consacrés à la recherche médicale, seuls 1% sont consacrés à la psychiatrie, alors que c'est en train de représenter l'un des coûts principaux en termes économiques, en termes de coûts.
Comment on bascule justement dans la psychose? Parce qu'on parlait justement de cette vulnérabilité psychique tout à l'heure, mais ça n'est pas la maladie, mais à quel moment justement on peut considérer qu'on a franchi ce pas?
Alors il y a deux, pour simplifier les choses, il y a deux formes de début. Il y a ce qu'on appelle la bouffée délirante aiguë, qui est un peu une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein, où d'un seul coup, en l'espace de quelques heures ou quelques jours, se développe un délire extrêmement riche, des thématiques persécutives, messianiques, mégalomaniaques et des troubles du comportement qui peuvent être très problématiques. Alors ça, elles sont d'une certaine façon, c'est facile, elles sont diagnostiquées tout de suite. Mais les formes les plus fréquentes sont des formes qui sont annoncées par des petits symptômes difficiles à détecter. On en parlera tout à l'heure, les prodromes, qui sont des petits symptômes dépressifs, qui sont des petits symptômes anxieux, de l'isolement, d'une perte de dialogue avec les parents, un décrochage scolaire qui est souvent un assez bon marqueur.
Ce qui était dans le témoignage tout à l'heure de notre auditeur.
Voilà. Et qui peuvent évoluer parfois sur des mois, voire des années. Les parents, ne comprenant pas, étant démunis, rationalisant un peu en se disant bon, c'est la crise d'adolescence, je voudrais dire quand même aux auditeurs, la crise d'adolescence n'est pas une maladie. On peut être adolescent et bien dans sa peau et bien dans ses baskets. Alors un adolescent qui va pas bien pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y a un contexte, ok, il faut pas l'emmener voir un psychiatre surtout, mais un adolescent qui va mal depuis des mois, etc., et on voit parfois des gens qui arrivent depuis 5 ou 10 ans malades. En France, le délai entre le début des premiers symptômes et le premier diagnostic, il est de 8 ans. Considérable. Dans aucune autre maladie, vous imaginez un diabétique qui serait diagnostiqué 8 ans après le début de son diabète. Donc on a des vrais progrès à faire.
Julie Bourgin, pourquoi on appelle ça les prodromes d'ailleurs? Et j'ai l'impression que ce terme s'emploie en particulier pour parler justement de la schizophrénie. C'est quoi? C'est les premiers symptômes justement?
C'est ça,
tout simplement
ce sont les premiers symptômes qui indiquent la possible évolution vers une maladie, mais qui ne sont pas non plus spécifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on présente à un moment donné ces prodromes que l'on va évoluer vers la schizophrénie. Et c'est là tout l'enjeu. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'aller voir un médecin spécialiste psychiatre à ce moment-là, un, ne va pas rendre plus malade, comme on pense parfois, puisque c'est vrai que je raconte souvent cette anecdote d'une infirmière scolaire qui me dit, vous vous rendez compte, je ne vais pas vous l'envoyer en consultation voir un psychiatre, il m'a déjà dit qu'il avait des idées suicidaires. Si je lui dis d'aller voir un psychiatre, c'est la fin des haricots. Donc, on voit quand même un petit peu le manque d'information et l'image du psychiatre qui existe encore à l'heure actuelle. Et donc, ces prodromes, c'est une constellation de signes qui, associé à un retentissement sur le quotidien du jeune, comme on disait, l'isolement, la difficulté à maintenir un niveau scolaire comme il avait l'habitude de le faire, et mis bout à fond qu'on a un risque d'évoluer vers la maladie. Et donc, nous, l'idée, c'est de minimiser ce risque, voire de le prévenir complètement. Mmh. Et si jamais ce risque, en fait, on a pris en charge de façon un peu plus intense quelqu'un qui, de toute façon, n'aurait pas évolué vers la maladie, mais finalement, c'est pas très grave, puisque souvent, en fait, de toute façon, il y a une souffrance à prendre en charge.
Ce que vous dites est très juste, et il y a cette peur de l'étiquetage. Si j'envoie mon enfant ou si je vais voir un psychiatre, je rentre dans un circuit, je suis étiqueté et les psychiatres vont me psychiatriser. C'est pas du tout comme ça que ça marche et il faut vraiment le dire aux gens. C'est même plutôt l'inverse. Le plus souvent, ces consultations de dépistage précoce vont être uniques et vont être simplement une réassurance pour les parents et des conseils d'hygiène de vie tout simples. Donc il faut vraiment que les gens n'aient pas peur et ne se disent pas « si je vais voir le psychiatre, il va me rendre fou ».
C'est exactement l'inverse. Il y a un message de Marie qui nous dit « en tant que jeune ayant eu des soucis psy, je trouve que c'est difficile d'avoir une bonne prise en charge. Si on veut autre chose que la psychanalyse par exemple, on ne trouve pas forcément ou difficilement. Il est vrai que je n'ai jamais voulu être hospitalisé, mais les échos que j'ai sur la prise en charge en hôpital ne sont pas très encourageants non plus ».
Très hétérogène. Le problème de la psychiatrie en France, c'est que vous pouvez avoir vraiment des services d'excellence et des services beaucoup plus difficiles. Il n'y a pas autant d'hétérogénéité en pédiatrie ou en cardiologie. Vous aurez à peu près les mêmes protocoles partout. En psychiatrie, c'est très, très, trop hétérogène. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. It for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. 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 Satellite.
Satellite of Love, Lou Reed sur France Inter. Mes invités aujourd'hui, les psychiatres David Gourion et Julie Bourgin, pour parler de la fragilité psychique des jeunes adultes. Patricia nous dit ceci, c'est très enrichissant tout ce qui est dit, on en prend note, mais est-ce que nous sommes suffisamment armés pour protéger nos enfants, nos ados face à toute la violence qui nous entoure, les attentats, écrit-elle entre parenthèses. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les consultations justement suite aux événements?
Moi j'ai reçu quelques personnes dans des situations dramatiques, hein, y compris l'épouse d'un monsieur qui est décédé au Bataclan cette nuit-là, et c'est vrai qu'il va falloir que on assure un suivi pour ces personnes-là. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension traumatique, voire post-traumatique, elle diffuse aussi un peu.
C'est ça. Hein. Ça n'est c'est pas seulement les gens qui étaient sur place. Gens,
Oui, et comme en plus ces attentats n'étaient pas ciblés autant que ceux de Charlie sur une population ou sur... Là, tout le monde peut se sentir concerné. Donc, cette dimension traumatique, je trouve, est plus forte.
Et elle touche particulièrement les jeunes.
En oui.
Alors justement, Julie Bourgin, vous êtes plus attentive que jamais, justement, suite à des événements comme cela, lorsque vous recevez des jeunes, pour déceler justement certains troubles.
Alors, c'est un contexte que l'on prend en compte, bien évidemment, avec une prise en charge bien spécifique, liée à ce qu'on appelle finalement le syndrome post-traumatique, hein, qui diffère de la symptomatologie qu'on voit habituellement. Et nous, à Sainte-Anne, on a mis en place une sorte de protocolisation, de cellules un petit peu de crise, où effectivement, on est très attentif et on reçoit de façon bien spécifique, ces patients qui viennent demander de l'aide, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, dans ce contexte traumatique.
Grégoire nous envoie son témoignage. Je fais malheureusement partie de ces personnes qui restent chez elles certains jours et qui fument toute la journée. Malgré le fait d'avoir un travail que je fais efficacement et sérieusement, l'absence d'angoisse est une situation stable et plutôt enviable. Je n'arrive pas à m'arrêter. Il n'y a plus de sens, dit-il, à ma consommation. David Gourion. Pour lui répondre.
Il y a une vraie dépendance au cannabis. On a longtemps pensé que le cannabis n'était pas une drogue addictive, et en réalité elle l'est, et elle induit ce qu'on appelle un syndrome amotivationnel. C'est-à-dire qu'on finit par s'auto-suffire. La consommation de cannabis éteint, d'une certaine façon, le désir, éteint la motivation, éteint les objectifs. Donc on arrive à fonctionner. Un peu comme une souris dans sa roue, on arrive à tourner, mais il n'y a plus de projection, il n'y a plus de... Et quelque chose s'éteint, en effet. Et alors bon, il y a des programmes de prise en charge des addictions, il y a des choses à faire. Il faut que cette personne aille consulter un addictologue pour se faire aider.
Tout l'enjeu, c'est donc de dépister au bon moment les personnes que vous recevez, avant qu'elles ne basculent réellement dans la psychose. La fenêtre est très mince, justement, avant ce basculement.
Alors en fait, on a une fenêtre de transition d'environ 1 ou 2 ans, où là on peut intervenir de façon efficace. Et c'est à ce moment-là qu'on peut mettre en place tout ce qui est programme d'intervention précoce, qui est plutôt centré sur des programmes d'intervention psychosocial, donc c'est-à-dire sans médicaments forcément, puisque les gens ont souvent en tête que d'aller voir le psychiatre, surtout à l'hôpital, on va leur donner des traitements. À l'heure actuelle, les traitements préventifs de l'évolution vers la transition psychotique sont plutôt des thérapies d'inspiration cognitivo-comportementale, avec en premier lieu, justement, un programme centré sur la gestion du stress, bien déterminé, bien validé. C'est un programme qui permet de diminuer le stress perçu à l'échelle de l'individu qui participe à ce programme.
Oui, ce sont des investissements au long cours. Alors pour ces
personnes, on est quand même sur une thérapie qui dure au moins 2-3 mois, avec un suivi en parallèle avec le psychiatre. Psychothérapie centrée sur les effets néfastes du stress permet aussi du coup de développer des stratégies plus adaptées au quotidien. Et donc, il y a un cercle vertueux qui se met en place, puisque le fait de développer des stratégies plus adaptées à ces stresseurs fait qu'il va y avoir moins de stresseurs en retour. Et donc, on a des bons résultats, sachant qu'en plus, le stress au niveau physiologique, en effet, est pourvoyeur de la maladie psychiatrique. Excuse-moi, David. Après toi.
David Gourion.
Et à ça, on peut ajouter des nouvelles pistes de recherche autour de la découverte, qui est quand même assez fascinante, de mécanismes inflammatoires au niveau du cerveau. Et on est en train de se rendre compte que dans un certain nombre de troubles psychiques, ce ne sont pas uniquement des éléments psychologiques, mais il y a des réelles lésions cérébrales, des perturbations du système immunitaire. Et du coup, des programmes de recherche se mettent en place à visée préventive, en utilisant des molécules qui bloquent le stress oxydatif, la N-acétylcystéine, les oméga, d'autres molécules, certaines vitamines. Et donc, il y a aussi beaucoup d'espoir autour de ces programmes.
Allez, il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais vraiment qu'on réponde à ces courriels. Sabine nous dit ceci. Comment convaincre un jeune adulte de la nécessité d'une prise en charge et d'un suivi si lui-même est dans le refus?
Alors... Ah, ça, c'est une question très ancrée dans le quotidien des parents. Alors, je crois que pour le convaincre, tout simplement, c'est déjà d'essayer de peut-être de venir avec lui, de l'accompagner.
Oui, mais s'il veut pas, c'est compliqué.
C'est de tenir bon et d'insister qu'il sente qu'il y a un front uni. Parce que souvent, ce qui est compliqué, c'est que les deux parents sont pas toujours d'accord. Mmh. Parfois, la maman va dramatiser, le papa banaliser. Si ce jeune sent qu'il y a un front uni, que les parents lui disent au moins une fois un bilan, en médicalisant un peu les choses, tiens, voilà, un bilan neuropsychologique dans un centre d'évaluation. Si vraiment ils tiennent bon et qu'ils insistent, au bout d'un moment, en général, c'est difficile, même s'il est têtu, qu'il ne cède pas.
Il traîne la patte, mais il vient quand même.
Daniel nous dit, notre fils nous semble totalement dépourvu d'envie, à l'exception de ses jeux vidéo. Rien ne semble allumer l'étincelle dans sa tête. Il est éteint. Est-ce le signe d'une dépression non avouée?
Impossible de faire un diagnostic comme ça sur les ondes, ce serait inadapté. Mais en tout cas, ce que vous décrivez est quand même... en soi un motif de consultation.
Bruno nous dit, mon fils de 23 ans n'a plus de rythme jour-nuit. Il passe la majeure partie de son temps sur des jeux en ligne. Il refuse de rechercher du travail. Il donne des signes de dépression. Quels moyens avons-nous pour faire évaluer son état dans la mesure où il refuse de prendre rendez-vous chez un psychiatre? Bah là aussi, hein, c'est toujours la
Alors on revient à la question de départ, mais effectivement, il faut lui dire que l'idée c'est de comprendre pourquoi finalement il passe autant de temps sur ses jeux vidéo et pourquoi est-ce qu'il se décale. Et ça ne passe que par une consultation auprès d'un psychiatre. Et là, effectivement, il faut peut-être y aller une fois pour se rendre compte que c'est pas si dramatique que ça. Et
Alors, il y a aussi le fait que j'ai fait des fiches exprès à la fin du livre pour les jeunes qui ne donnent pas un diagnostic, mais une sorte de screening rapide ces fiches sont écrites pour les concerner un peu et peuvent leur donner envie du coup de consulter en se reconnaissant dans certains symptômes.
C'est ça.
Allez, dernière question très vite. Brigitte demande si on est au point au niveau des antipsychotiques à base de cannabidiol. Est-ce que ce sera bientôt en pharmacie ou pas?
Alors bientôt en pharmacie, non, mais en tout cas des programmes de recherche sur différentes voies, celle du cannabis, mais celle du glutamate aussi. Donc beaucoup d'espoir sur des nouvelles thérapeutiques dans les années à venir.
Merci à tous les deux. La fragilité psychique des jeunes adultes, donc 15-30 ans, prévenir, aider et accompagner. David Gourion, c'est chez Odile Jacob. Et puis également, signe précoce de schizophrénie, sous la direction de Marie-Odile Krebs, c'est aux éditions Dunod.